Radio Okapi. Le journal Babel Pongo Massimo.
Kinshasa débloque 20 millions de dollars américains pour lutter contre Ebola sur son sol. C'est le ministre de la Santé qui l'a annoncé hier, alors que sur le terrain, le nombre de décès dépasse déjà la barre de 200 avec plus de 900 cas suspects selon des chiffres d'hier. Au lendemain de la visite du chef de l'État au marché central, le gouvernement provincial de Kinshasa annonce la poursuite des démolitions et de la libération des emprises aux abords de ce lieu de négoce. Il demande aussi aux vendeurs d'évacuer les avenues Bokassa et Roi Kadingi notamment. Lutte contre Ebola, les intervenants dans le dialogue entre Congolais d'hier ont évalué la mise en application des mesures de lutte mises en place. Vous le suivrez dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. 20 millions de dollars américains, c'est la somme mobilisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui frappe sa partie est. C'est sur instruction du chef de l'État. Cette annonce a été faite hier lundi par le ministre de la Santé publique. C'est à l'occasion du briefing ministériel virtuel d'Africa Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Jean-Désiré Kanyama nous en dit plus.
Le ministre Roger Kamba présente cette contribution comme un signal fort, tranchant avec la réponse jugée insuffisante lors des épidémies précédentes et représentant une part significative du plan continental des ripostes estimé à 319 millions de dollars. Le tableau épidémique reste préoccupant avec plus de 200 décès suspects, plus de 900 cas suspects, près de 1600 contacts suivis et au moins 145 personnes hospitalisées en isolement dans 11 zones de santé réparties entre les provinces de l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Selon le ministre de la Santé, Roger Kamba, la République démocratique du Congo, première victime de l'épidémie, paie les tributs les plus lourds, illustrés par les décès d'un médecin en première ligne, survenu la veille de la réunion. Par la même occasion, Kinshasa appelle ses partenaires à hausser les niveaux de leur engagement dans cette lutte contre cette épidémie.
Et par ailleurs, il faut rappeler que l'Union européenne a annoncé une enveloppe de 15 millions d'euros pour soutenir toujours la riposte contre Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda. D'après le communiqué de Hadja Labib, commissaire de l'Union européenne en charge de l'égalité, de l'état de préparation et de la gestion des crises, ce financement vise à appuyer les opérations d'urgence dans les zones touchées, ainsi que les efforts de préparation et de prévention. Nous allons à présent découvrir ce qui se passe sur le terrain en Ituri, précisément considéré comme l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola. Sur place, la sensibilisation des populations se porte bien et se poursuit d'ailleurs. Même les casques bleus bangladais de la MONUSCO ont mené samedi une campagne de proximité auprès des populations déplacées afin de renforcer les mesures de prévention contre Ebola à Roho, c'est dans le territoire de Djougou. Nous faisons le point sur cette activité avec Jean-Claude Lukidile.
Ebola reste au centre des préoccupations sanitaires en Ituri. Samedi dernier, les casques bleus bangladais de la MONUSCO, appuyés par les équipes de relais communautaires de la mission, ont sillonné les rues de Roho, une localité située dans les territoires de Djougou, pour sensibiliser la population sur les risques liés à cette maladie. À l'aide de mégaphones, les soldats de la paix ont appelé les habitants, composés majoritairement de personnes déplacées, à prendre au sérieux Ebola. Ils ont insisté sur le fait que cette maladie n'est ni une invention, ni une croyance mystique, mais une réalité sanitaire dangereuse pouvant entraîner la mort. Au cours de cette campagne, plusieurs gestes barrières ont été rappelés à la population, notamment le lavage régulier des mains, l'évitement des contacts physiques, l'utilisation correcte des masques ainsi que le signalement rapide des cas suspects. La même activité de sensibilisation a également été organisée au village de Sesseti, dans la localité de Blukwa-Eta, ainsi qu'à la base militaire de FADC, située sur la colline de Roho, toujours dans les territoires de Djougou. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Lutte contre l'épidémie d'Ebola encore cette fois, un appel est lancé dans la ville de Beni. Le responsable de la protection civile dans ce coin du Nord Kivu demande aux autorités de renforcer le contrôle des mouvements des populations en provenance des zones considérées comme épicentres de la maladie, notamment dans la province de l'Ituri. Selon Jean-Paul Kapitula, l'instauration des manifestes pour tous les véhicules de transport en commun permettrait d'identifier à l'avance des passagers et de faciliter ainsi leur traçabilité en cas de contact avec des cas suspects ou le développement de la maladie. Il est dit au micro de Martial Papi Moukeba.
Cette zone est à forte densité de population, mais une population très nomade. Les premiers leviers sur lesquels il faut vraiment mettre l'accélération, contrôler les mouvements des populations. On doit imposer strictement des manifestes Les agences de transport doivent avoir des manifestes pour tout voyageur qui vient de Bounia. Comme ça, ça nous permet de dire, par exemple, si un voyageur qui était de l'équipage d'une voiture a présenté des signes et on trouve que réellement il fait déjà la maladie, il est facile à travers les manifestes de retrouver sa provenance et sa destination. Et ça, ça va nous permettre de contrôler le flux de mouvement. Il arrive à Luna, il dépose la copie des manifestes. Il arrive à Beni, il dépose la copie des manifestes. Les autorités sanitaires, les autorités administratives auront déjà des manifestes régulièrement pour nous permettre à contrôler le flux de mouvement des gens. Si c'est à Boutembo, la même chose.
Je vous rappelle que dans le Nord Kivu, quelques cas d'Ebola ont déjà été confirmés dans les villes de Butembo et de Goma. À propos d'Ebola, justement, l'évêque du diocèse de Goma fait entendre sa voix. Il invite la population à respecter strictement les gestes barrières dès maintenant pour prévenir la propagation de la maladie à virus Ebola dans la ville. Pour Mgr Willy Ngumbi, pas question d'attendre que la situation devienne incontrôlable, que les cas se multiplient dans la ville pour agir. Le prélat catholique estime que, même si un seul cas est officiellement confirmé aujourd'hui à Goma, la menace est bien réelle. Il regrette cependant que cette crise sanitaire frappe une population déjà épuisée par la guerre. Mgr Willy Ngumbi, au micro de Rosalie Zawadi.
Parmi les choses qui font peur aux gens aujourd'hui, il y a bien sûr la guerre, avec la crise que toutes les familles sont en train de crier partout. Voilà que par-dessus tout cela, nous avons maintenant la crise de la maladie à virus Ebola. Je voudrais seulement attirer l'attention de toutes les populations de Goma et d'ailleurs, que la maladie à virus Ebola, elle tue. Alors je dis à mes frères et sœurs, bien sûr chez nous, il y a encore un cas confirmé, mais n'attendons pas que la situation s'empire pour commencer à utiliser les mesures barrières. Donc dès maintenant, prenons conscience de cette maladie et commençons à nous protéger. Donc respectons les mesures barrières, prenons le temps de nous laver les mains, mettez le cache-nez si c'est nécessaire, toujours éviter les contacts. Et dès qu'il y a un cas suspect, vite, il faut faire recours aux services de la santé, aux médecins, aux infirmiers.
Parlons à présent de cette réaction du gouvernement provincial de Kinshasa au lendemain de la visite du chef de l'État au marché central appelé communément Zando. Il annonce la poursuite des opérations de démolition et de libération des emprises publiques dans plusieurs zones situées aux abords de ce lieu de négoce. Dans un communiqué publié hier lundi, le ministre provincial des Infrastructures et Travaux Publics, Alain Tshilungu, affirme que ces opérations visent à restaurer l'ordre, assainir les lieux et sécuriser les abords de ce marché, notamment sur les avenues Bokassa et Wakadingi. Les autorités mettent aussi en garde vendeurs, commerçants informels, mais aussi acheteurs contre toute occupation ou activité commerciale dans les zones concernées. Que retenir d'autre à ce sujet, Kassam Zati?
Le gouvernement provincial de Kinshasa affirme vouloir mettre fin aux occupations anarchiques autour du marché central. Selon le communiqué, les opérations de démolition, des dégagements forcés, des curages et des nettoyages sont déjà en cours sur plusieurs avenues situées aux abords du marché, notamment Bokassa, Wakadingi, Dumarais, Dumarché, de l'école, Plateau, Kasavubu et Bolingo. Les autorités provinciales regrettent la poursuite des activités commerciales jugées illicites malgré les mesures déjà engagées. Le gouvernement ordonne ainsi à tous les vendeurs et occupants illégaux de libérer immédiatement les espaces concernés sous peine de démolition des étalages, d'évacuation forcée et de saisie des marchandises. Le communiqué précise également que tout acheteur surpris en train d'effectuer des transactions dans ces zones s'expose à une interpellation par les services compétents, ces espaces étant désormais considérés comme des zones d'intervention administrative et de sécurisation urbaine. Pour le gouvernement provincial, cette opération vise notamment l'assainissement du site, la fluidité de la circulation ainsi que la sécurisation des abords du marché central, en attendant sa réouverture annoncée dans les prochains jours.
Pendant ce temps, les travaux de réhabilitation de la route Bounia-Kasséni-Tchomia vont bon train. D'ailleurs, ils suscitent des réactions positives au sein de la population et des opérateurs économiques en Ituri. Après plusieurs plaintes liées au mauvais état de cette route stratégique, certains habitants saluent l'implication des autorités provinciales et le lancement effectif des travaux. Le point avec Jean-Claude Lekidile.
Le début des travaux de réhabilitation de la route Bunia-Kasséni-Chomia depuis mercredi dernier est accueilli avec satisfaction par plusieurs usagers de cet axe routier. Selon certains acteurs locaux, cette intervention fait suite aux multiples plaidoyers adressés aux autorités provinciales afin de trouver une solution à la dégradation avancée de cette route. Il rappelle que plusieurs accidents impliquant notamment les véhicules de transport de marchandises avaient été enregistrés ce dernier mois. Les habitants saluent particulièrement l'implication du gouverneur militaire de l'Ituri pour avoir, selon eux, répondu aux préoccupations de la population. Le chef de secteur de Bahema Sud revient sur l'importance économique de cette voie d'intérêt capital pour la région. André Catalo.
Le marchandise qui nous arrive de l'Ouganda, et si l'état de la route n'est pas bon, vous voyez ce que ça peut faire. Il peut y avoir également pénurie de marchandises en ville de Bounia.
Cette autorité estime enfin que l'amélioration de cet axe routier pourrait également contribuer à renforcer la mobilité des services de sécurité dans cette partie de la province confrontée à l'activisme des groupes armés. Le souhait de la population reste désormais de voir ce tronçon long d'environ 60 km être asphalté afin de booster davantage le trafic sur cet axe très fréquenté. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
La Commission électorale nationale indépendante fait encore parler d'elle avec la présentation d'un film documentaire sur le centre électoral Bosolo. Ce film, qui signifie « Vérité en français », consacré à ce centre de compilation et des résultats des élections de 2023, a été projeté hier lundi à Kinshasa. Sa mission, rapporte la CENI, misée sur ce centre électoral en vue d'une publication détaillée des résultats, renforcer la transparence des résultats puisque ces mêmes résultats des élections ont souvent été synonymes de tensions, de contestation et de méfiance entre acteurs politiques. Il faut aussi dire que des accusations de fraude et autres formes d'irrégularité ont longtemps alimenté les crises post-électorales dans le pays. Pour le président de la CENI, Denis Kadima, cette expérience devrait servir de leçon pour éviter les tensions lors des prochains scrutins. On l'écoute ici au micro de Grace Amzati.
Nous devons savoir que nous sommes un pays qui s'est engagé sur la voie de la démocratie. Quand les choses ne marchent pas, on doit le dire. Mais quand ça marche, il faut le souligner. Rappelez-vous que en 2018, après les élections de 2018, durant tout un cycle, il y a eu une revendication qui a pris la forme du slogan « Nous réclamons la vérité des urnes ». D'ailleurs, ça nous a inspiré, c'est pour ça qu'on parle de Bosolo, la vérité. Les gens disaient « Nous voulons la vérité, nous voulons les détails par rapport aux résultats ». Et voilà cette nouvelle commission qui vient et qui met en place un système qui donne les résultats en détail, bureau de vote par bureau de vote. C'est un progrès majeur, mais qui a été négligé. On n'en parle pas. Les missions d'observation effleurent le centre Bosolo. Ils en parlent à peine. En 2006, au premier comme au deuxième tour, en 2011 et en 2018, pendant que la CENI était dans son mutisme, la CEI et puis la CENI étaient dans leur mutisme, ne parlant pas des résultats parallèles étaient publiés à travers la ville. Tel a gagné 58% et la tension montait dans le pays. Rappelez-vous, en 2023, il n'y a pas eu de publication parallèle des résultats.
Et restons dans la capitale pour vous signaler que les câbles électriques exposés et mal entretenus représentent une menace croissante pour la population. Dans plusieurs communes, en effet, des fils pendent dangereusement au-dessus des avenues, de surcroît au-dessus des têtes des gens, longe des habitations et touche parfois le sol, exposant habitants et passants à des risques d'électrocution. Face à cette situation préoccupante, les riverains lancent un appel urgent aux autorités compétentes afin d'intervenir avant qu'un nouveau drame ne survienne. Reportage Magloire Lannes.
Dans les quartiers Bassoko de la commune de Ngaliema, des câbles électriques mal fixés, parfois très proches des habitations, suscitent une vive inquiétude au sein de la population. Une situation qui menace non seulement les riverains, mais aussi les commerçants et vendeurs installés le long de route.
Le problème vient du fait que les câbles électriques de la SNL passent tout près des habitations. C'est un grand danger pour les passants. Les véhicules responsables de la SNL doivent chercher une solution pour remettre de l'ordre dans ces câbles.
Je vends en dessous des câbles électriques, c'est risqué. Mais si Dieu me bénit, je quitterai cet endroit. Pour le moment, je continue malgré tous les dangers et les risques.
Face à ces préoccupations, la Société nationale d'électricité, par la voix de son chargé de communication, M. Mbombo, évoque plusieurs facteurs à l'origine de cette situation. Selon lui, certains incidents sont liés aux branchements illégaux et au manque de collaboration des habitants lors des opérations de sécurisation.
Nous plaçons le réseau en respectant la procédure, mais la population est caractérisée par l'incivisme à outrance. ils se raccordent, ils touchent au réseau quand ils veulent, ils utilisent des agents non qualifiés. Et quand ça se complique, là, je retourne à la semaine.
Malgré ces explications, la population continue d'appeler à des mesures urgentes pour sécuriser les installations et prévenir d'éventuels drames.
Actualité internationale.
Un peu après 1h du matin dimanche, le tarmac de l'aéroport international de Dakar s'est transformé en scène de retrouvailles nationales. Le président sénégalais s'est personnellement déplacé pour accueillir les 15 supporters sénégalais libérés par le Maroc après plusieurs mois de détention à la suite des violences ayant éclaté lors de la finale de la CAN 2025 à Rabat. Entouré de responsables de la Fédération sénégalaise de football et des proches des anciens détenus, le chef de l'État a voulu donner à ce retour une portée à la fois politique et symbolique.
L'invité.
Ebola en RDC, selon le dernier rapport du ministère de la Santé publique, mis à jour à la date du 24 mai, les derniers chiffres font état de 900 cas suspects, de 204 décès suspects au nord et au sud Kivu, ainsi qu'en Ituri, considéré comme l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola. Face à l'extension de cette maladie dans ces provinces, des mesures strictes ont été prises. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont évalué la mise en application de ces mesures. On les écoute au micro de Guy Maté.
Docteur Jean Kasséa, vous êtes directeur général du Centre africain des contrôles et des préventions des maladies Africa CDC. En écoutant cet entretien de nos collègues, on comprend que cette épidémie circule avec une vitesse qui inquiète. Comment vous expliquez cette évolution, docteur Jean Kasséa?
Il faut d'abord se dire que cette épidémie est la deuxième plus grave épidémie d'Ebola au monde. Donc, le nombre de cas et de décès, c'est plus que tout ce qu'on a connu dans toutes les épidémies Ebola, à part celle de l'Afrique de l'Ouest, en 2014. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette épidémie? Comme le ministre Kamba le disait, le 5 mai, il y a eu ces cas suspects, mais malheureusement, sur place à Bounia, il n'avait pas de matériel pour tester la souche Boudibougio. Ils ont testé la souche Zaïre. Ils ont dit que c'était négatif. C'était pas Ebola. Alors, la maladie a continué à se propager. En termes d'épidémie, lorsque vous avez raté une journée, deux journées, et il y a des contacts dans une zone comme Ituri, qui est une zone dense, qui est une zone minière, et qui est une zone avec l'insécurité, je viens de l'Ituri. J'ai été voir l'hôpital, les médecins, j'ai parlé avec les autorités, je me suis rendu compte que la situation est sérieuse. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce qui fait que cette épidémie a continué de se propager en silence. Quand on l'a déclaré, on avait déjà plus de 256 cas et une soixantaine de décès. Alors que les autres épidémies, on les déclarait qu'on avait 10 cas ou 15 cas.
Merci. Luc Malembe, vous êtes acteur sociopolitique basé à Bounia, en Ituri. Comment vous évaluez la mise en application des mesures prises contre l'épidémie à virus Ebola en RDC 10 jours après sa déclaration officielle?
Monsieur Guy Maté, la situation n'est pas inquiétante comme je suivis le docteur. La situation devient catastrophique. Nous sommes à plus de 200 morts. Déjà, nous avoisinons le 1000 cas suspects et jusque-là, la situation ne fait que s'empirer. La situation qui a commencé dans deux ou trois zones de santé, vous avez suivi le reportage de votre collègue de Bounia qui vous parle de plus de 6 zones de santé déjà atteintes. Et ce qui nous surprend, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a l'épidémie d'Ebola, ce qu'on voit actuellement, ça fait quand même réfléchir. 10 jours après, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Le docteur Kasséa était de passage à Bounia, le ministre de la Santé était de passage, mais sur le terrain, moi, j'ai fait la ronde. Je suis passé dans certains hôpitaux qui prennent en charge les malades atteints d'Ebola. Écoutez, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de kit même de protection ni de traitement pour les corps soignants. C'est comme ça que vous voyez qu'on enregistre plusieurs morts parmi les médecins et les infirmiers. Et donc, on se demande où sont les tonnes de matériel qu'on a dit qu'on avait fait venir déjà ici. Où sont les millions qu'on nous chante ça et là? Parce que sur le terrain, on soigne les malades même dans des pharmacies parce qu'il n'y a pas de prise en charge. Vous imaginez?
Merci, docteur Michel Mouvoudi. Vous êtes spécialiste en santé publique et expert principal en santé et chef des projets à la Banque mondiale. Vous avez participé activement à la gestion des nefs épidémies de la maladie à virus Ebola et de la pandémie de la COVID-19 en RDC dans l'équipe du professeur Jean-Jacques Muyembe. S'il vous est demandé de partager votre expérience avec les équipes impliquées actuellement dans la riposte, que diriez-vous?
Il y a des piliers que nous devons renforcer dans notre système de santé de manière globale. Le premier élément, c'est d'abord se rendre compte qu'en fait, nous n'avons pas encore une fois de plus la population avec nous dans cette riposte. Cette situation que nous avons vécue en 2018, lorsqu'on avait la 10e épidémie de la maladie virus Ebola, est en train de revenir, alors que c'était la grande leçon qu'on avait tirée, qui était celle de se dire, lorsque vous construisez une riposte, soyez rassurés que vous avez les populations avec vous. Deuxièmement, M. Guy Maté, j'insiste sur le fait que nous sommes dans une vision des soins de santé primaire. Et à ce titre-là, n'oublions jamais que la zone de santé reste le socle de la mise en œuvre de cette stratégie de soins de santé primaire. Mettons déjà, au niveau des zones de santé, des stocks de médicaments prépositionnés. Et troisièmement, je pense que c'est important de s'imaginer à quel point nous devons investir dans le renforcement de notre système de santé.
Pour rappel, vous pouvez continuer de suivre ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiokapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Voilà qui met fin à ce journal que Lévin Bouinga a préparé et avec Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de votre attention. Excellente journée.